Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 148. Oui, l'épisode 150 approche. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre 2025. Je suis Horacio González et je suis accompagné de gens merveilleux tels que Joseph Omar, caché derrière Duke. Bonjour Joseph, ça va?
Bonjour Horacio, ça va très bien.
Aurélien Hébert, caché derrière Baby Yoda. Coucou Aurélien!
Bonjour! Bonjour!
Et qui peut être caché derrière une vieille PS1? Bah, ça doit être Tanguy Massé. Bonjour Tanguy!
Salut! Elle n'est pas si vieille que ça!
Oh, bah non, à mon échelle, carrément non! Bon, bah, on va faire un petit tour de table et ensuite on va partir sur les différentes news. Bon, allez, Aurélien, commence s'il te plaît!
Bonjour à tous, donc moi c'est Aurélien Hébert, je suis la personne en charge de l'équipe Database as a Service de Clever Cloud. C'est l'équipe qui va gérer toutes les bases de données que l'on a en tant que produit à Clever Cloud. Donc on va retrouver du PostgreSQL, du MySQL, du Redis, de l'Elasticsearch ou du MongoDB. On est l'équipe qui est en charge de développer la partie produit et de surtout de maintenir en condition opérationnelle toutes les bases, donc de faire en sorte que ça tourne H24 et 7 jours sur 7 et de traquer les différentes fonctionnalités. Horacio, je te repasse la main.
Merci, et c'est aussi l'équipe qui nous permet d'avoir ces massifs aujourd'hui parce que notre deuxième invité de Clever, c'est Tanguy, il est aussi dans la team base de données. Coucou Tanguy, ça va?
Salut, ça va, c'est ça, je suis un des fidèles serviteurs d'Aurélien qui bosse surtout sur du Redis actuellement.
Nickel, et notre invité de jour, José, j'ai presque honte de te demander de te présenter, vu comme tout le monde te connaît dans l'écosystème. Ya va, mais...
Oh bah oui, sûrement, oui, ça je pense que...
S'il te plaît.
Donc, je m'appelle José et les gens me connaissent surtout pour parce que je fréquente le Paris Jog et je m'occupe du Paris Jog en fait depuis. J'ai un peu oublié, ça fait plus de 10 ans donc honnêtement, j'ai oublié le nombre d'années exactes. Ça fait plus de 10 ans, voilà. Plus et puis, j'apparais. Comment ?
Et plus de 15.
Non, je pense pas que ça fasse plus de 15. Plus de 15 ? Oh.
Oui.
Non, je crois pas quand même.
Et moi aussi, en fait. Le 14e anniversaire de notre jog, le Finnish Jog, à Brest. Et
d'accord.
Vous étiez déjà une source d'inspiration au moment où on l'a monté. Donc, c'est plus de 15, ça c'est sûr.
Alors, peut-être que c'est plus de 15, ok. Ce qui ne rajeunit pas, ça fait plaisir. Merci, Horacio. Et donc, je fais aussi j'apparais aussi régulièrement dans des conférences type Devox France, Devox Belgique aussi d'ailleurs, et Devox UK également aussi, et puis d'autres. Où j'aime bien faire des présentations longues parce que comme je suis quelqu'un qui parle lentement, si tu veux, ça me permet d'avoir le temps de dire tout ce que j'ai à dire et même quelquefois de meubler avec des choses beaucoup moins intéressantes. Et les gens n'hésitent pas à me le dire. Voilà. Et en ce moment, principalement, donc j'ai rejoint Oracle il y a 5 ans maintenant, en fait, 5 ans déjà, dans l'équipe qui s'occupe de l'équipe qu'on appelle les Java Developer Advocates. Et donc l'objet de cette équipe, c'est de publier du contenu, alors ça peut être de la documentation, des tutoriaux, des labs, toutes sortes de choses, aussi sous forme très variée, écrite, podcast, vidéo, choses comme ça, sur la plateforme Java et sur l'actualité de la plateforme Java. Alors, on se concentre sur Java SOS, qui est déjà très large en fait, et on parle beaucoup moins de tout ce qui est autour de Java, donc des grands projets open source, y compris Jakarta E d'ailleurs. Ça, c'est des choses dont on parle moins, mais bon, qu'on suit quand même du coin de l'œil, parce que c'est aussi des choses qui sont intéressantes et qui intéressent les communautés. Voilà.
Nickel. Oh, bah, merci encore d'être là. Et bon, tu sais, les massifs, on aime bien parler des nouveautés et tout ça, quitte à que tu sois là avec nous. Boba, tu nous racontes un peu qu'est-ce qu'il se passe en ce moment dans l'écosystème Java, quelles sont les dernières nouveautés, les dernières news, les dernières choses qu'on a attiré ton attention?
Alors, ce qui se passe en ce moment, vraiment aujourd'hui, c'est les gens sont en train de préparer la version 26 qui va sortir en mars. Il y a une version tous les 6 mois. La dernière, c'était la 25, donc en septembre. Et la prochaine, ce sera la 26 en mars. Et en fait, ce cycle de 6 mois, il est décalé de 3 mois. Les gens travaillent en décalé de 3 mois. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, ils finalisent ce qu'ils peuvent pousser sur la 26 sous forme de JEP. Donc, ils sont en train d'écrire les JEP et de les publier, de les pousser. Et puis, une fois que les JEP sont validés, les fonctionnalités qui sont déjà prêtes sur des branches, etc., sont mergées dans la branche principale du JDK. Et grosso modo, les 3 derniers mois du cycle sont consacrés à la construction, aux tests, à la correction de bugs éventuels, jusqu'à la publication finale. Et puis, tout ça, c'est planifié, en fait. Il y a un planning qui est public, d'ailleurs, avec une première version RC1, une RC2, une RC3, puis la version finale. Et puis avant ça, il y a des versions dites EA, donc Early Access, qu'on peut télécharger également. Et donc là, en ce moment, c'est ce qui occupe les gens. On a toutes les JEP qui sont en train d'être publiées sur la version 26 qui va sortir. Et voilà. Et puis une fois que les JEP seront terminés, que la date de clôture du dépôt des JEP sera passée, on passera dans cette phase de construction des pré-versions. Donc on aura en fait une idée très précise de ce qu'il y aura dans la 26. Grosso modo dans un mois, quoi, à peu près.
Ok.
Quelque chose comme ça, donc début décembre. Voilà. Et puis les gens vont commencer ensuite. Alors après, il y a 2 équipes. Il y a une équipe qui va travailler sur les nouveautés de la 27 qui sortira en septembre, mais qui sera finalisée vers le mois de juin. Et puis ça recommencera. Mais là, enfin, je pense que ce qui intéresse les gens, c'est surtout la 25, parce que la 25, c'est une version dite LTS, entre guillemets. Alors LTS, c'est un truc qui n'existe pas en fait. LTS, c'est un machin que les vendeurs ont inventé. Mais du point de vue du JDK et de l'OpenJDK, hein, donc du groupe de gens qui travaillent au développement de la plateforme et à l'écriture des specs, cette notion de LTS, la 24, la 25 et la 26, c'est 3 versions qui sont identiques en fait.
Hein, c'est curieux ça, je savais pas du tout. Donc moi, ouais. Déjà, première chose, pour quelqu'un... Pour des vieux de Java comme moi, ça se fait toujours drôle voir ce rythme-là de 2 versions par année et plein de nouveautés. Ça fait déjà quelques années, mais j'avoue que j'ai encore de mal à me dire, voilà, tous les ans, il y a 2 releases de Java avec un paquet de nouveautés à chaque fois. Et oui. Je trouve ça personnellement super. Je sais que pour certaines boîtes, c'est aussi compliqué parce que l'idée de mettre à jour la JVM, surtout des boîtes qui ont eu des souvenirs traumatiques de passage de Java 4, 1.4 à 1.5 ou de 1.5 à 1.6 ou l'arrivée de Java 8.
Alors là, c'est des boîtes qui sont déjà anciennes, hein, pour passer de Java 4 à Java 5. Là, c'était quand même il y a 25 ans. Hein.
Ouais.
Enfin, non, pas tout à fait 25 ans, mais pas loin.
Tu as dit tout à l'heure qu'on était plus trop jeunes, ouais.
Le dernier passage traumatique, c'est le passage de 8 à 11, grosso modo.
Oui.
Parce qu'il y avait la version 9 avec les modules. Et c'est pas que les applications, les grosses applications, marchaient plus, en fait, avec le passage des modules. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de dépendances tierces qui étaient vraiment anciennes et qui, elles, ont eu du mal à passer le saut. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, je travaillais pas chez Oracle à l'époque, hein, je faisais du consulting. Les sociétés que j'ai vues qui ont fait ce passage, qui ont fini par le faire, maintenant c'est la plupart des projets qui l'ont fait, hein, quand même, faut pas exagérer. Ça a en fait impliqué un nettoyage massif dans les dépendances tierces. Il y avait souvent des vieux rogatons qui traînaient, des vieux machins qui étaient plus maintenus depuis 10 ans. Et quelque part, même si ça a été pénible et difficile et douloureux et tout ce que tu veux, ça a quand même fait du bien, quoi. Parce que, tu sais, c'est quand tu nettoies ton garage, tu découvres que tu as des vieux machins qui pourrissent dans des coins et finalement tu te dis, ouais, ok, sur le moment c'était pas marrant, mais maintenant au moins, c'est propre. Et là, c'était un peu ça. Mais aujourd'hui, passer d'une version à l'autre, c'est surtout les il y a des gens qui prennent chaque version les unes après les autres, hein, 17, 18, 19, 20, etc., 21. Et quand les projets qui suivent ce genre d'évolution, souvent c'est juste une affaire de mettre à jour un numéro de version dans un fichier de configuration de ton CI/CD. Et si tu fais ça, Le nombre de nouveautés bon, est moindre que si tu passes directement, si tu fais directement le saut 17, 21, 25. Grosso modo, il est divisé par 4. C'est pas logique. Et donc, les possibilités de régression sur ton code ou sur tes dépendances ou de non-compatibilité ou de choses comme ça sont vraiment extrêmement réduites. Donc, le passage d'une version à l'autre, il se fait vraiment sans douleur. Quoi. On a eu un jug mardi soir. Avec une démo sur c'est Stéphane Nichols qui a fait ça, qui travaille chez Spring, qui montrait comment passer de Spring Boot 3 points, je sais plus combien, à une version Early Access de Spring Boot 4. Il a commencé par faire un passage de 21 à 25. Il a juste mis 25 là où il y avait 21 dans son pomme. C'est d'ailleurs un Gradle, donc voilà. Et il a recompilé et ça a juste fonctionné exactement de la même façon. Il s'est vraiment rien passé. Alors, tu peux dire, OK, c'est une démo, il l'avait préparé, j'en suis sûr. Mais il n'empêche que ça reste quand même extrêmement facile.
On a de la plupart de nos clients qui utilisent Java. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup qui sont réticents à bouger de versions. Vous avez un peu de stats côté Oracle de l'adoption de différentes versions, ou c'est un peu au doigt mouillé ou...
Non, c'est pas un doigt mouillé. Il y a des statistiques assez précises, et d'ailleurs qui ne sont pas faites que par Oracle. Parce que si c'était que Oracle qui les faisait et qui les publiait, les gens diraient « Ah oui, mais c'est Oracle, machin, voilà. » Donc ça perdrait probablement en crédibilité pour des raisons qui sont normales. Hein. Je veux pas critiquer ça. Et quand tu regardes les sondages qui sont faits par t'as plusieurs trucs qui font ça, t'as Stack Overflow qui en fait, il y a régulièrement sur Reddit il y a des choses qui sortent comme ça à droite et à gauche sur les statistiques d'adoption. Tu te rends compte qu'en fait la vitesse de l'adoption elle s'accélère depuis 8. Il y a plus en plus de projets. Et depuis 11 encore plus, de plus en plus de projets depuis 11 qui adoptent vraiment très très tôt les nouvelles versions. Alors souvent les gens sautent d'une version LTS à l'autre, donc 17, 21, 25, enfin 11, 17, 21, 25. Mais moi je vois quand je fais des présentations, y compris des présentations en privé chez des industriels, hein, dans des sociétés, les gens ils sont la majorité... Il y a un mois, la majorité était en 21, avait le projet de bouger en 25, et donc j'imagine qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de gens qui tournent en 25. Okay. Et quelque part, ça se comprend. Quand t'as une migration qui se fait facilement, qui se fait sans je ne vais pas dire sans effort, parce que c'est pas vrai, il y a quand même un petit peu de travail, mais sans douleur, on va dire. Une migration qui se fait sans douleur, et que derrière, sans même changer ton code, parce que c'est aussi l'argument, ah oui, on va prendre la 25, mais les nouveautés du langage, on ne va pas les prendre tout de suite. Évidemment, on ne va pas les prendre tout de suite, tout le monde le sait. Mais il n'empêche que tu as un JIT qui fonctionne mieux, tu as un garbage collector qui fonctionne mieux, tu as une JVM qui est plus rapide. Enfin, c'est comme ça que Java fonctionne depuis le début. Tu passes d'une JVM à l'autre, et magiquement, ton application est plus rapide, juste parce que la JVM marche mieux. Enfin, c'est. Voilà. Tu consommes moins de mémoire, ton GC marche mieux, ton JIT est plus efficace, t'as plus d'optimisation. Ton application, tu vas gagner du temps CPU, elle va moins consommer en mémoire, etc. Et derrière, toutes tes factures cloud, etc., ça va te voir dessus. Hein. Ça, c'est bien évident. Hein. Tu sais, quand le jour où les chaînes de caractères qui étaient systématiquement encodées sur 16 bits, chaque caractère était encodé sur 16 bits. Et puis, les gens se sont rendus compte qu'en fait, sur les 16 bits, il y en avait 8 qui n'étaient jamais utilisés. Ils disent, on va maintenant changer ce tableau de char qui était dans la classe string. Maintenant, c'est un tableau de bytes. D'un seul coup, les chaînes de caractères, elles se sont mises à utiliser que 8 bits. Dans l'empreinte mémoire, ça se voit. Hein ça se voit. Et derrière, ça veut dire aussi moins de pression sur le GC, donc moins de temps CPU pour le GC. Donc et ça, tu n'as même pas besoin de compiler ton code. Tu changes juste de version et c'est tout. T'as rien besoin de faire.
C'est les côtés changer de version. Donc les côtés agréables magiques. Hein. Pour ça c'est clair. Et tu as ton code que tu n'as pris aucune des nouveautés depuis Java 11, mais tu as le même vieux code tourne mieux maintenant que ce qu'il tournait avant.
Oui, tout clair. À fait. Mais de toute façon, quand tu prends une équipe de, je sais pas, une équipe de 10 personnes, voilà, et puis tu gères une base de code qui fait 2 millions de lignes. les 10 personnes qui travaillent, même si c'était des gens qui travaillaient 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas, ok, Dieu merci, ces gens, ils n'ont pas une capacité d'agir sur 1 million de lignes de code entre deux versions pendant 6 mois. Ils vont peut-être être capables d'agir sur, je sais pas, 100 000 lignes de code, quelque chose comme ça, donc le dixième de l'application. Donc ça veut dire que d'année en année, tu as tout un legacy qui reste là, auquel personne ne touche, et personne ne prévoit même d'y toucher. Et ce legacy, s'il a été écrit en 8, bah, y a des choses dedans qui pourraient être bien mieux écrites et bien plus efficacement, avec du code plus efficace et plus propre et plus beau, etc., tout ce que tu veux, en 21 ou en 25. Mais personne n'a le temps de faire ça, personne ne le fait. Et puis si c'est du code qui marche, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Bah, il n'empêche que si tu bouges ce code sur une JVM 21 ou 25, 25 encore mieux, hein, parce qu'il y a vraiment des nouveautés dans le GC en 25, entre 21 et 25. Bah, ton code, il va s'exécuter plus rapidement. Voilà. Donc, et je veux dire, tous les projets sont comme ça. Tu peux pas, il n'est pas question de réécrire donc 1 million moins 100 000, hein, ça fait 900 000, a priori. Il n'est pas question de réécrire 900 000 lignes de code comme ça, juste pour la beauté de la science. Ça n'existe pas. Ça. Personne n'a le temps, personne n'a les moyens de faire ça.
Et donc,
c'est ce qui s'est un peu passé quand on a fait des migrations entre Java 8 et Java 11. Moi, je me souviens d'avoir changé des centaines de lignes de code pour justement patcher des projets qui étaient écrits en Java 8 pour les faire tourner en Java 11. Par contre, après, ouais, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai eu aucun problème pour les bumps jusqu'en Java 21. Aujourd'hui, ils tournent en Java 21 sans problème et ils tourneront, je pense, sans problème en Java 25. J'avais essayé de les faire tourner en Java 24, mais c'est plus lié à des devs qui supportent que les versions LTS de Java. Donc, attendre que ça bump sur les Java 25. Bah, mais
le poids des dépendances, il n'est pas négligeable. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Et j'allais te demander les nouveautés de Java 25, mais vu qu'on a de la chance de t'avoir pour 10 épisodes, je serais presque tenté de laisser cette partie-là pour le 2e épisode et te demander plutôt, tu as dit que l'LTS, c'est un concept que côté développement de la JVM n'a pas... Vous ne faites rien de particulier pour les LTS, alors quand on dit que Java 25 est une LTS, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? C'est pas que de marketing, c'est aussi de support. Est-ce qu'il y a un intérêt à basculer de LTS en LTS ou en vérité ça change rien? Explique-nous un peu tout ça, s'il te plaît.
Alors, en fait, tout ça, ça vient du fonctionnement interne de l'OpenJDK. L'OpenJDK, c'est une association, okay, de gens. Alors, il y a des salariés d'Oracle, mais il y a des salariés de plein d'autres sociétés dedans, qui contribuent au développement de la plateforme Java. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en deux mots? Ça veut dire contribuer à l'écriture des spécifications et à l'écriture d'une implémentation de référence. OK? C'est ça que ça veut dire. Quand on regarde l'effort de développement, et chaque 6 mois, cet effort de développement, il est quantifié, il est publié, donc c'est des données qui sont publiques. Quand on regarde l'effort de développement, c'est à peu de choses près, je crois que c'est entre 75 et 80% Oracle, et les 20% restants, dans ce paquet-là, la première contribution, c'est les indépendants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contribution? Ça peut aller d'un bug report, voilà, à l'écriture entière d'une fonctionnalité qui va toucher le langage, les API et la JVM. Donc, c'est vraiment une contribution, c'est vraiment très large. Et j'en profite pour passer le message. Si vous trouvez un bug dans la JVM ou dans une API, faire un rapport de bug, ça a de la valeur. Et c'est compté comme une contribution du point de vue du projet. Donc, c'est vraiment... Mais ça peut même, un bug, ça peut être quelque chose de très, j'ai envie de dire, de très microscopique. Ça peut être une ambiguïté dans un morceau de documentation, par exemple, ou quelque chose, ou un exemple dans la documentation qui manquerait ou qui serait pas exactement, qui mènerait à une ambiguïté ou ce genre de choses. Ça commence là, la contribution. Donc vraiment, j'en profite pour passer le message aux gens qui nous écoutent. Chaque contribution compte et chaque contribution a de la valeur. Ça c'est fait. Donc voilà. Donc il y a des gens qui. Alors dans ce paquet de gens, il y a des gens d'IBM/Red Hat, il y a des gens de Google, il y a des gens de HP, il y a des gens d'SAP, il y a tout plein de gros industriels voilà, de l'informatique qui sont présents, qui contribuent à la JVM. Et donc, c'est un effort commun, en fait. Tout ce truc-là, c'est un effort commun. Parmi les JEP, parmi les dernières JEP qui ont été faites, il y en a qui ont été écrites par des indépendants, par exemple. Donc, même les JEP, c'est pas que des gens d'Oracle hein, qui les écrivent. Voilà. Et l'OpenJDK publie donc tous les 6 mois une nouvelle version de ses spécifications et une nouvelle version de la plateforme. Alors, il y a la JVM, il y a le compilateur, et puis il y a toute la librairie runtime qui est le JDK, donc grosso modo l'ancien rt.jar dans lequel il y a toutes les classes avec lesquelles on travaille. Mm-hmm. Voilà. Donc tout ça, tous les 6 mois, il y a une nouvelle version qui sort. Tout le code source, il est sur GitHub. Tous les développements de chaque projet référencé dans l'OpenJDK sont publiés sur des branches GitHub également. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est vraiment, ça se fait en open source, hein, c'est complètement ouvert. Si vous avez envie de télécharger la branche Valhalla, par exemple, parce que le projet Valhalla vous intéresse, et construire une JVM Valhalla sur la branche que vous avez téléchargée, c'est parfaitement possible, c'est documenté, et ça vous prendra à peu près, allez, on va dire une demi-heure de construire une distribution, de construire un compilateur et une JVM et l'API runtime de cette branche de Valhalla. La compilation, elle prend entre 15 et 30 minutes, dépendamment de la machine dont on dispose. Voilà. Et donc, sur ce cycle de 6 mois, au début, il y a une première version qui est publiée sous licence GPL. Alors, il y a des exceptions, etc. Donc, la licence, il faut regarder ça précisément. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas juriste, donc je vais éviter de parler de ça trop en avant. Et puis, il y a deux versions de mise à jour sur ce cycle de 6 mois, donc qui doivent sortir tous les 2 mois, j'imagine. 0, 2, 4, et puis au bout de 6 mois, c'est la version N plus 1. Mm-hmm. Voilà, donc il y a une version 25.01 et 25.02 sur le calendrier qui sont prévus. Et quand la 26 sort, il n'y a plus de patch sur la 25 qui sont diffusés sur le site de l'OpenJDK. Si vous allez sur openjdk.org, okay, il y a une page avec toutes les versions archivées depuis pas mal de temps. Je ne sais pas si c'est depuis le début, mais c'est depuis assez longtemps quand même. Et en fait, quand on regarde les versions qui sont publiées, bah pour chaque version majeure, il y a 3 versions. La version initiale, 2 versions de patch, et puis après, on passe à la version majeure suivante.
Okay.
Donc, si je regarde la 25... Comment, pardon?
Jusqu'à là, on te suit bien. Là, c'est le cycle...
Oui.
En début dev, c'est clair.
Voilà, c'est le cycle classique. Donc, du point de vue de l'OpenJDK, du point de vue de ce que font les gens de l'OpenJDK, la 25, elle va devenir obsolète quand la 26 va sortir. Et il n'y aura plus de patch sur la 25 une fois que la 26 sortira. OK ? Alors, après, il y a des gens mais, qui peuvent faire partie de l'OpenJDK, mais qui font ça en annexe de leur travail dans l'OpenJDK, qui vont faire des versions dites MTS ou des versions LTS, donc qui vont continuer à faire des patchs sur la 25, sur la 21, etc. Mais ça, c'est une espèce d'accord entre des vendeurs qui s'engagent auprès d'un certain nombre de clients, de leurs clients, à publier des patchs sur ces versions-là. Et donc, il y a eu une espèce de convention au niveau de Java, je crois que c'est à partir de la 17 que ça a été fait, de se dire, OK, tous les deux versions, on va offrir un support à long terme avec des patchs, des correctifs de bugs, des patchs de sécurité, ce genre de choses, sur ces versions, donc toutes les 4 versions. Donc 17, 21, 25, et puis la prochaine, on sait déjà que ce sera la 29, qui sortira dans 2 ans.
Ok.
Voilà. Mais ça, si je vais voir sur le. Si j'ai regardé les versions disponibles au téléchargement sur le site de l'OpenJDK, ces versions-là, je ne vais pas les voir. Il va falloir que j'aille ailleurs. Okay. Que j'aille sur le site des personnes. Alors, il y a des gens qui offrent ça de façon payante, il y a des gens qui offrent ça gratuitement. OK. Eclipse, alors, je ne sais jamais, il y a le projet. C'est le projet Temurine et leur distribution s'appelle Adoptium, c'est ça? Alors, je ne sais jamais quel est le nom de la version, la distribution et le nom du projet. Je crois que c'est le projet Adoptium. Non, c'est le projet Adoptium et la distribution s'appelle Temurine.
En tout cas, quand j'utilise SDK Man pour installer les différents JVM, Elle apparaît comme Temurin.
Temurin, ça doit être le nom de la. C'est ça. Ça doit être le nom de la distribution et le projet qui gère ces distributions s'appelle le projet Adoptium. Donc, si on va sur la fondation Eclipse, tous les logiciels que Eclipse fournit sont gratuits et open source. Donc, on peut télécharger ça gratuitement. Et Eclipse va fournir comme ça des niveaux de page pendant un certain temps. Et puis après, si on paye un abonnement chez un vendeur, moi je travaille chez Oracle, donc j'ai parlé d'Oracle, mais c'est Oracle est bon. Je crois qu'il y a une vingtaine de vendeurs qui offrent du support technique. On va pouvoir aussi bénéficier de patch comme ça. Quelquefois, il y a même des offres qui consistent à backporter des fonctionnalités de la JVM telles que le GC ou des choses comme ça dans des versions plus anciennes de façon à bénéficier de certaines avancées des composants qu'on voit pas et qui font que ça marche magiquement vachement mieux au niveau de la JVM qu'on utilise. Voilà. Mais donc et ça, si tu veux, ça a une conséquence qui est vraiment importante au niveau de l'OpenJDK, c'est que la 24, c'est pas une pré-version de la 25. Ou la 28, c'est pas une version bêta de la 29. Tu vois, oui. Chaque version est construite de la même façon, avec le même niveau de qualité, avec le même soin apporté aux tests, etc., y compris les tests de performance. Il n'y a pas une version, tu vois, qui serait de meilleure qualité qu'une autre. Ça, du point de vue de l'OpenJDK, du point de vue des spécifications et du point de vue du code source originel, là, il n'y a pas de différence.
Ok, c'est important.
Il n'y a pas de différence.
C'est important. Une assurance de mise à jour de sécurité dans le long terme, plus qu'une... S'il y a une feature qui est prête pour la 24, mais que c'est la 25, la LTS, elle sortira quand même sur la 24, quoi. C'est le cas
par exemple, absolument. Je vais te donner un exemple très précis qui est l'une des grosses nouveautés de la 21, c'était les threads virtuels. Mm-hmm. Donc voilà, les threads virtuels ont été publiés en 21. Alors il n'y avait pas les scope values, il n'y avait pas la concurrence structurée, donc c'était intéressant de l'avoir, mais c'était pas encore complet, on va dire, en termes d'API pour vraiment pouvoir les utiliser à fond, enfin jusqu'au bout. Et en 24, il y a un fixe sur les threads virtuels qui a été publié, qui est, alors il faudra rentrer dans les détails techniques, mais les gens ont peut-être entendu parler de ça. Quand un thread virtuel exécute du code natif, quand un thread virtuel exécute une tâche qui comporte du code Java, qui appelle du code natif et qui rappelle du code Java après, et que dans ce bout de code Java, il y a un bloc synchronisé, non pardon, je mélange les choses, je reprends. Bref, il y avait un problème de pinning, c'est-à-dire que le thread virtuel ne pouvait pas être démonté du thread platform qui était en train de l'exécuter. Et il y avait ce problème dans les blocs synchronisés. Mm-hmm. Voilà. Et ce problème, il a été fixé. Alors, c'est pas vraiment un bug, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait, en fait. Mais bon, ça a été refactoré, le problème a été résolu en 24. Mais 24, c'est pas une LTS. Mm-hmm. Donc, si des gens qui faisaient des threads virtuels à haute dose et qui avaient la possibilité de prendre la 24, bah magiquement leur code il marchait mieux parce qu'il y avait plus de problèmes. Enfin, potentiellement leur code pouvait mieux fonctionner parce que ce problème avait disparu. Et le fixe il a été publié en 24, qui n'est pas une LTS au sens. Voilà. Mais les patchs de sécurité, encore une fois, les personnes qui téléchargent la distribution, les distributions disponibles sur l'OpenJDK, les patchs de sécurité, quand la 26 sort, il n'y en a plus sur la 25. Il faut aller les chercher ailleurs.
Parfait.
Donc, ouais.
Ok.
Les gens qui disent je télécharge l'OpenJDK, ça c'est juste une bêtise. Hein. On ne télécharge pas l'OpenJDK, c'est une association de gens l'OpenJDK.
On ne télécharge pas les gars.
Je vais télécharger la mairie de Paris, quoi. Tu ne télécharges pas la mairie de Paris. Tu télécharges éventuellement le projet. Mais voilà, c'est ça. Tu télécharges éventuellement le projet Lutèce, mais pas la mairie de Paris.
Merci. Là, c'est beaucoup plus clair. Bon, bah, et comme je disais, tu vas nous parler des nouveautés de Java 25, mais dans le deuxième épisode, parce qu'on va continuer. On avait d'autres news qu'on voulait parler. Tanguy, tu m'as dit, tiens, on n'a pas mis dans la liste les annonces Steam. J'ai dit, quelles annonces Steam? Bah, tu nous racontes un petit peu les annonces Steam et pourquoi ça t'intéressait?
Alors, c'est tout récent parce que ça date, au moment où on enregistre, ça date d'hier.
Wow.
Steam annonce qu'ils vont étoffer leur proposition hardware qui comportait déjà le Steam Deck,
oui.
Qui était déjà quand même une belle évolution dans le milieu du jeu vidéo sur la façon de jouer, avec un nouveau Steam Controller qui méritait quand même une mise à jour par rapport au dernier, une nouvelle Steam Machine et le Steam Frame connu depuis maintenant plusieurs années sous le nom de projet Descartes. On avait déjà eu des news projet Descartes, comme quoi Steam voulait faire un nouveau casque virtuel, potentiellement pouvoir le connecter au Steam Deck et pouvoir streamer comme ça de manière portable. Mais en fait, depuis qu'ils ont complètement ouvert SteamOS il y a quelques mois, maintenant ils proposent une machine qui fait tourner SteamOS, donc un casque VR qui fait tourner nativement SteamOS.
Ok.
Qui est capable de faire tourner les jeux que fait tourner déjà le Steam Deck.
Ok.
Et qui dispose d'un dongle qu'on peut connecter à n'importe quel PC qui fait tourner Steam ou un Steam Deck pour pouvoir streamer les jeux depuis n'importe quel PC qui fait tourner Steam ou un Steam Deck.
Ok.
Et d'ailleurs, même ils ont... j'ai essayé de trouver l'article qui parle un peu plus de ça, j'ai pas trouvé. Ils ont fait des mises à jour de Proton, donc qui est leur couche de compatibilité entre pour les jeux Windows et le système sous-jacent Linux, parce que le Steam Deck et le Steam Machine tournent sur une... Enfin, SteamOS, c'est une version de Arc, de Arch Linux. Ils ont fait des mises à jour dans Proton pour que les jeux Windows tournent mieux sur Steam Frame, y compris si c'est des jeux non VR.
Ok.
Donc je suis très hype. On n'a pas de nouvelles exactement de prix ou de date de disponibilité exacte. Les Steam Frames sont annoncés pour début 2026. Les Steam Machines et les Steam Controllers courant 2026.
Les Steam Machines, donc, c'est un petit ordinateur desktop fait par Steam, optimisé pour les jeux, mais qui est un ordinateur. Ou c'est plutôt une console, un truc fermé.
Alors, ils ont fait dans l'annonce, ils sont très clairs que c'est complètement ouvert et vous pouvez installer ce que vous voulez dessus, comme un Steam Deck. La Steam Machine, c'est un ordinateur avec du silicone AMD un peu custom.
Oh, Silicon AMD, ok.
Voilà. Et donc, c'est avec un processeur AMD, je crois que c'est 6 cœurs 12 threads et du RDNA 3 au niveau architecture graphique.
Qui a priori, 16
gigas de RAM.
SteamOS, c'est-à-dire avec un Linux.
C'est ça. Livré nativement avec un Linux et on peut installer ce qu'on veut dessus. On peut installer Windows si vous voulez, pour le machin.
Mais il peut l'utiliser pour d'autres choses que pour jouer. Mais ça va être
complètement. Complètement. C'est un ordinateur. Et d'ailleurs, même c'est un ordinateur qui comprend même un truc un peu spécifique, qui est donc dans les antennes Wi-Fi et les antennes Bluetooth, il y a une antenne qui est dédiée pour être connectée à un Steam Controller.
Ok.
Donc d'ailleurs le Steam Controller, en fait, c'est un... Si vous vous souvenez, il y a quelques années, Steam avait sorti une espèce de manette bizarre sans joystick, mais avec deux gros trackpads sur les côtés.
Oui.
Et tout le monde trouvait ça un peu à la fois super cool, mais en même temps très bizarre et pas forcément fonctionnel. Et depuis, ils ont ressorti. Maintenant, ils ont annoncé un nouveau Steam Controller qui est basiquement les contrôles du Steam Deck en une manette.
Ok.
Donc avec les deux petits trackpads, le D-pad, des vrais joysticks, des vrais boutons.
Ils prennent les deux côtés de Steam Deck et ils fonctionnent plus ou moins.
C'est ça. Si vous avez votre Switch avec vous, vous prenez vos deux Joy-Con, vous les mettez dans le grip et ça vous donne... C'est ça le Steam Controller, quoi. Vous prenez vos deux trucs de Steam Deck, vos deux Joy-Con de Steam Deck et vous les mettez au milieu et ça fait un Steam Controller.
Donc avec les petits trackpads de chaque côté pour les pouces et tout. Ok.
C'est ça. Et donc, si vous voulez faire une partie de Civ chez vous, sur votre télé, machin, avec les deux petits trackpads, normalement, c'est censé être possible. J'attends de voir. Je suis très curieux, quand même. Mais je suis potentiellement intéressé. On va attendre plus d'informations, on va voir plus de tests, peut-être. Mais c'est d'excellentes nouvelles. Un petit truc où je suis un peu déçu quand même sur la Steam Machine. Ils n'ont pas annoncé de mutabilité, enfin de façon d'augmenter les caractéristiques en interne. Donc je ne crois pas qu'il y ait de façon de modifier le SSD, mais ils expliquent qu'on peut augmenter la capacité de stockage via des cartes micro SD.
Mm-hmm.
Je ne sais pas à quel point je suis convaincu. Parce que bon, changer le SSD en interne peut-être.
C'est une machine avec un facteur de forme plutôt petit et compact, donc ça pourrait expliquer pourquoi ce n'est pas tellement possible de changer de composants soi-même, un peu comme les micro-ordinateurs ou les NUC qu'on voit un peu partout. C'est un peu la
réflexion
au NUC, en gros.
C'est ça. Bah, j'ai vu rapidement une vidéo de Gamers Nexus où ils étaient allés à l'annonce officielle chez Valve, où ils démontent une Steam Machine. Donc si vous voyez la Steam Machine, les trois quarts supérieurs sont juste un radiateur. Et c'est un seul radiateur pour le CPU et GPU.
Ok.
C'est assez rigolo à voir. D'ailleurs, j'ai vu des commentaires sur cette vidéo qui l'appelaient le GameCube.
je viens de voir des photos, effectivement. C'est un cube, c'est un petit cube.
C'est ça.
Qui, oui. En plus, il y a un facteur de compatibilité de conjoint assez forte parce que ça ne crie pas ordinateur gamer. C'est un truc qui pourrait être très bien dans un salon sans heurter de sensibilité.
C'est ça.
Ok.
Bah, d'ailleurs, même sur le site officiel, on voit qu'il y a la façade est amovible et ils ont des personnalisations. Donc, il y a des gens qui ont des façades en bois ou ce genre de choses. C'est assez stylé.
Bon, bah, on regardera ça. Donc, sorti en 2026. Bon, nickel.
C'est ça.
Bon, bah, on a fait notre petit news gamer. Aurélien, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Raconte-nous.
Alors, moi, j'avais un petit sujet qui est déjà sorti en août. Hein. C'est assez ancien, du coup. C'est la document DB qui est adoptée par la Fondation Linux.
Ça tombe bien, on n'y avait pas parlé. Mais avant ça, il va falloir
que tu
nous expliques qu'est-ce que c'est document DB.
Parce que on va peut-être repartir déjà sur l'historique et sur le contexte et sur tout ce qui s'est passé avant. Donc on va faire un petit remonter dans le temps. Donc avant les années, avant 2018, donc il y avait MongoDB qui était une base NoSQL pour Not Only SQL, donc qui permettait notamment aux développeurs de stocker des objets au format JSON dans une base de données. Donc ça a eu une adoption assez intéressante. Enfin, les développeurs aimaient bien utiliser cette base de données-là, ou des bases similaires à MongoDB. Et MongoDB avait une licence open source, donc c'était, je crois, la GPL, assez facile à installer et à déployer un peu partout. Et les cloud providers ont déjà commencé à l'utiliser et à permettre aux différents développeurs qui développaient les applications chez eux d'utiliser des bases de données MongoDB. Ce qui n'a pas forcément plu côté MongoDB, et ils ont fait, c'était je pense les premiers je crois dans l'histoire à faire ce genre de changement de licence assez drastique, où ils sont passés d'une licence donc à GPL à SSPL, pour Server Side Public License. Et leur objectif c'était vraiment d'empêcher les différents cloud providers de monétiser MongoDB sans avoir une licence MongoDB, et donc sans leur reverser une partie des bénéfices qu'ils avaient. Le gros problème de la SSPL qu'il y a eu, c'est qu'en fait, tu avais une obligation, si tu déployais du MongoDB et que tu le revendais, d'open sourcer l'intégralité de tous les services que tu avais écrits. Donc, dès qu'on proposait du MongoDB, on avait l'obligation de tout open sourcer. Ça a été aussi un problème puisque la licence de MongoDB elle n'était pas reconnue comme une licence open source par l'OSI, donc l'Open Source Initiative. Donc de là, forcément, il y a eu des réponses qui sont arrivées dans l'écosystème. Déjà, Debian, Red Hat, Fedora, ils ont complètement abandonné le support de MongoDB dans leur distribution à cause de la licence SSPL. Donc on ne pouvait plus installer de MongoDB là sur ces OS-là. Et Amazon Web Services, donc AWS, a lancé un service propriétaire de MongoDB, qu'ils ont aussi appelé document de DB, même si c'est pas le même document DB dont on va parler, mais c'est important de le mentionner. Closed source, évidemment, et donc ils proposent un service compatible MongoDB basé sur leur technologie closed source. Ce qui va forcément créer des tensions dans l'écosystème cloud entre MongoDB et différents providers de cloud. En 2021, il y a une initiative lancée par une entreprise qui s'appelle FerretDB qui permet d'avoir une sorte de proxy SQL entre MongoDB et PostgreSQL. Donc l'idée, c'était de dire...
Et on peut faire un petit spoiler, FerretDB qui sera bientôt disponible chez Clever Cloud et que ton équipe est en train de finir d'industrialiser, c'est ça?
C'est ça, on aura forcément, on aura prochainement un petit bêta. Tu spoiles un peu la suite de mes explications, mais j'y reviendrai après. Mais oui, l'idée c'est qu'on puisse avoir une disponibilité au moins techniquement de pouvoir déployer des add-ons PostgreSQL avec FerretDB prochainement sur les offres des bases de Clever Cloud. Donc ce sera intéressant de pouvoir tester et on va essayer de développer ça en vrai produit pour avoir une vraie couche compatibilité MongoDB et documents, stockage de documents en tout cas sur les services Clever Cloud.
Bon, bah, on ferme les parenthèses spoilers, merci.
Ouais, il n'y a pas de problème, rassure. Et du coup, en 2021, ouais, FerretDB s'est lancé. Donc, au début, c'était très expérimental. Je crois qu'ils ont fait aussi des initiatives sur du SQL Lite. Je sais pas trop ce que ça a donné, mais en tout cas, ils ont testé des trucs. En 2023, ils étaient disponibles en version 1.0. Mais c'était vraiment découplé de la base. C'est-à-dire qu'on avait le serveur PostgreSQL qui fonctionne classiquement. Et devant, on venait déployer un proxy FerretDB. Les choses ont changé en 2025, puisque début janvier 2025, Microsoft a open sourcé une extension qui s'appelle DocumentDB, qui est une extension que l'on installe sur un serveur PostgreSQL. Et cette extension DocumentDB, c'est vraiment le cœur, le moteur qui est utilisé par l'offre de Microsoft Azure. Qui va permettre de faire du MongoDB sur la plateforme cloud de Microsoft.
Ok.
Et du coup, en août, là, c'est l'annonce. Du coup, c'est l'annonce qui vient d'être faite dans le blog post que je partage. C'est qu'il y a c'est que cette extension-là va rejoindre la Linux Foundation.
Okay.
Donc ça a pas mal de changements, mais déjà on va résumer un peu ce que c'est DocumentDB. Donc c'est l'extension qui permet de stocker du binary JSON donc dans le PostgreSQL et qui va permettre aussi de supporter des requêtes sur ces JSON avec une licence open source MIT donc classique. Et derrière, allié à FerretDB. FerretDB a complètement changé sa façon de construire son proxy, c'est-à-dire qu'à partir de la version 2, donc la version 2.0, ils utilisent nativement DocumentDB, ce qui leur permet d'être efficaces dans le stockage de données documents dans un PostgreSQL. Et surtout, voilà, là, depuis le 10 novembre 2025, ils ont sorti conjointement une version donc 0.107 pour DocumentDB et 2.7 pour FerretDB. Elles apportent pas beaucoup de nouveautés, à part le support du MCP, donc les protocoles pour les agents IA, etc. Mais surtout, une vraie synergie en fait entre la moteur Postgre, donc l'extension DocumentDB, et le proxy SQL qui permet de rendre d'avoir une compatibilité MongoDB sur un serveur Postgre. Et okay. L'idée, c'est que c'est une alternative qui devient 100% open source vraiment à MongoDB. Et le plus important, c'est qu'est-ce qui a découlé depuis août. On se rend compte qu'il y a une coalition en fait industrielle des grands du cloud qui s'alignent en fait sur ce modèle-là, avec l'idée d'avoir des portabilités multi-cloud, etc. Mais AWS, Google, Microsoft et compagnie, même Cockroach, Supabase, etc., rejoignent un peu ce mouvement-là. Et il y a un deuxième blog post que j'ai partagé aussi, où en fait, AWS a carrément rejoint le comité technique et va contribuer activement sur DocumentDB, mais la version open source. Et ils veulent rebasculer certaines de leurs innovations de DocumentDB dans la version open source. Et c'est pareil, ils veulent adopter les fonctionnalités open source du coup dans leur service. Du coup, ça ouvre des perspectives qui sont hyper intéressantes. Et à quel point est-ce qu'il va y avoir des nouveaux standards en fait sur ce stockage de documents NoSQL, sur DocumentDB, etc. En tout cas, c'est une page là qui est en train de s'ouvrir, d'une chance de pouvoir peut-être même redéfinir une vraie alternative à MongoDB, qui soit même pas le protocole MongoDB, en utilisant demain l'extension DocumentDB de PostgreSQL. Et en plus, je n'ai pas parlé, mais c'est vrai que ça offre aussi toutes les garanties d'un point de vue opérationnel, quand on opère un PostgreSQL par rapport à opérer un MongoDB. Du coup, on va pouvoir retrouver tout ce qu'on retrouve dans l'écosystème PostgreSQL qui vont être natives et qu'on va pouvoir utiliser sur des bases de données avec où on aura juste installé DocumentDB en extension d'un PostgreSQL. Donc, c'est effectivement, ça limite pas mal de nouvelles choses à apprendre sur un système pour des gens qui ont déjà l'habitude d'opérer des bases de données PostgreSQL. Donc voilà à peu près pour la nouvelle. Je sais pas si tu as des questions, Ratio, mais ou si vous voulez réagir, Tanguy et José.
Il y a un petit truc aussi, c'est ça arrive à un moment où les librairies qui supportent MongoDB vont arrêter le support de la dernière version sortie en licence open source. En plus aussi. Donc si vous utilisez du MongoDB sur la dernière version open source, qui est la 4 point et quelques, vos librairies vont bientôt plus supporter cette version-là.
Donc là, ça veut dire qu'il y a, pour beaucoup de monde, il y a un choix à faire, quoi.
Imminent. C'est ça. C'est donc soit vous payez votre facture à Mongo, vous cherchez autre chose.
Nickel. Bon, merci pour ça. Et je pense que dès que vous aurez FerretDB qui sera disponible pour tester, on se fera un petit streaming pour montrer tout ça. Je compte sur vous deux. Bon, sinon, on va continuer avec les news. Bon, il n'y a pas un épisode de Massy dans lequel on ne parle pas d'intrus de sécurité. Ça devient un marronnier, malgré moi. J'aime pas ça. Mais dans les hacks un peu embêtant qui devient normaux ces derniers temps, il y a un que moi je trouve particulièrement effrayant mais très rigolo, c'est les hacks de caractère invisible Unicode, les PUA, les Private User Area. C'est toute une série de caractères Unicode qui ont une particularité, ils ne s'affichent pas sur l'écran. Il y a des utilisations sûrement très intéressantes et très pertinentes pour ce type de caractère. Mais ce type de caractère ont été utilisés depuis déjà un bon moment pour hacker des projets open source. Et donc là, dans les liens que je vous montre, il fait l'analyse de plusieurs repositories GitHub qui ont été hackés par des pull requests qui fixait des bugs, qui corrigeait des problèmes, qui ajoutait vraiment quelque chose de bon au projet, mais qui l'ajoutait une petite ligne de caractère invisible dans laquelle il s'injectait des payloads toxiques dans le projet. Et quand il fait ta vérification de la pull request, tu vois qu'une ligne était ajoutée, mais une ligne qui semble vide. Et tu vois qu'il a corrigé des bugs. Bon, si tu n'es pas si corrigé, tu ne vas pas le dire, tu me fasses la ligne vide, ça n'a rien à faire. Parce que c'est une question d'indentation, d'espace, de layout. Et tu acceptes la pull request. Voilà ton repository compromis sans te rendre compte de rien. Et effectivement, derrière, tu analyses ces lignes-là, ces one-liner. Un one-liner assez long dans lequel il peut faire littéralement ce qu'il veut. Et donc, ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'était le logique-là de non, on va contribuer au projet, mais vraiment d'une façon efficace, corriger un bug, fixer un problème, et on profite pour déposer notre petit payload dans le projet sans que personne ne se rende compte. Il commence à avoir a priori des outils pour vérifier qu'il n'y a pas de caractère invisible dans ton code, Mais simplement l'idée que ce soit possible, je trouve ça assez hallucinant, quoi. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous connaissiez déjà ces hacks.
Du tout, c'est terrifiant. On avait déjà parlé même des hacks de. Alors, on n'avait pas parlé de ça exactement, on avait parlé de typo-squatting qui
Oui.
permettait de télécharger de mauvaises extensions
C'est
qui
ça.
sur machin. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et j'ai. C'est vrai, dans l'article suivant, ils disent à la fin qu'il n'y a pas vraiment de défense contre ça, puisqu'on peut se défendre que contre ce qu'on voit.
Mais c'est ça. Après, la défense, les outils que j'ai vus quand j'ai cherché un peu, ce qu'ils te font, c'est qu'ils cherchent les caractères invisibles. Donc, ils analysent les codes, ils cherchent les unicodes dans les plages qui ne s'affichent pas. Ils te mettent un gros warning. Tu as des unicodes qui ne s'affichent pas dans ton code. C'est mieux que rien, mais c'est un peu comme le type exploiting. Tu vois dans l'URL un truc qui, visuellement, c'est identique. Bah, tu te méfies pas. Là, c'est pareil. Tu vois pas ces caractères-là, tu peux pas te méfier.
Surtout que dans beaucoup de projets, c'est la norme d'avoir une ligne vide en fin de fichier. C'est un pattern qui peut très vite être exploité sur l'introduction de beaucoup sur certains problèmes de sécurité, quoi. Et effectivement, si on n'a pas de moyen de les détecter, c'est compliqué à lire, à voir.
C'est surtout que
À
si
part
tu
quand
as
c'est eux qui
déjà
font
une
ton pattern.
ligne vide, dans la pull request, tu vas voir en rouge la ligne vide, en vert une autre ligne vide ajoutée. Normalement, sauf si tu as déjà entendu parler, tu es hypersensibilisé et tu as une bonne journée ce jour-là, sinon tu vas complètement laisser passer ça dans ton diff, quoi.
Après, il faut espérer aussi que. Parce que ça me fait penser aussi à il y a quelques temps, les attaques contre le paquet XZ,
Oui.
où c'était justement un seul maintainer qui a vu quelqu'un qui faisait des commits, qui faisait du support, et qui a laissé le contrôle à cette tierce personne
Personne,
qui, en
ouais.
fait, au final, a mené une attaque. Là, c'est la même chose de manière plus directe, pratiquement. On n'a même pas besoin d'établir la confiance, d'établir machin. C'est juste qu'on fait un commit qui est correct,
Outil, quelque
qui est
chose
suffisant.
qui aide, quoi, voilà.
C'est ça, c'est ça. C'est le même vecteur d'attaque sans avoir le besoin d'établir la confiance, pratiquement, en fait. C'est. Seigneur.
Est-ce que GitHub a annoncé éventuellement quelque chose qui pourrait protéger contre ce genre de choses? Que ça doit quand même être, du point de vue de GitHub, ça doit, enfin, je sais pas, dit comme ça semble pas super compliqué de créer une espèce d'agent, tu vois, qui permettrait de te mettre un warning, attention, cette ligne elle est vide, mais en fait, il y a ce truc-là dedans.
Je suis complètement d'accord, ça semblait. Je pense que pour le moment, je n'ai pas trouvé la news, c'est des semaines dernières. Donc, j'ai le long un peu de temps pour réagir, mais je pense que carrément, c'est une chose que GitHub et GitLab devraient faire de leur côté parce que c'est un gros red flag. Tiens, il y a un commit
Après,
des lignes invisibles.
j'imagine qu'on a
est-ce que
moyen quand on
tu vois
fetch
ça?
les. Pardon, excuse-moi, je vais.
Non,
Non, sinon
non, je t'en prie.
je veux dire que quand on fetch les pull requests pour les reviews dans nos IDE, on a peut-être moyen de les voir. Je sais pas s'il y a des mécanismes, mais il faudrait creuser un peu ça, parce que enfin, moi j'ai l'habitude de review des PR en fetchant le code localement. Bah peut-être que là on les verrait.
Mais ça touche pas que le code, tu vois, tu as plein de gens qui ont des pages GitHub, tu vois, tous les sites sur GitHub, via github.io, etc. Enfin, évidemment, ça touche le code, et quand on parle de code, c'est assez intéressant, mais je veux dire, tu as plein, plein d'autres choses sur GitHub qui sont pas du code, qui sont des textes, qui se terminent en page web et qui pourraient, du coup, transporter, des informations, que tu n'as pas du tout envie de transporter. Et qui sont là de façon invisible, qui peuvent être détectés par des moteurs de recherche, par des agents quelconques, etc. Enfin,
C'est ça,
c'est à
parce qu'en
côté.
plus.
Tu vois, tu peux squatter, en fait, avec ce genre de choses. Tu peux squatter des sites web pour mettre de l'information que les tenants, propriétaires du site ou gestionnaires du site n'ont pas idée qu'elles s'y trouvent. C'est quand
Ça
même
me
un peu
rappelle
gênant,
que
hein.
les premières fois que j'avais entendu parler de ces hacks-là, c'était un hack contre les LLM. C'était quelqu'un qui avait mis ça sur un site web pour donner des mauvaises informations à un LLM qui viendrait sur ce site web et l'utiliser pour hacker l'utilisateur. Donc, c'était effectivement le premier cas que j'ai vu. C'était littéralement l'LLM. Lui, il voit ces caractères-là. Toi, tu ne les vois pas sur l'écran. Donc oui, je pense que...
Mais ça existait au début du web. Dès que les moteurs de recherche ont envoyé leurs crawlers pour analyser les sites web, tu sais, tu avais la possibilité de mettre des divs invisibles.
Oui.
Avec toutes sortes de mots-clés, etc., pour que ton site remonte. Bon, c'est terminé depuis longtemps. J'imagine que les crawlers savent se prémunir contre ce genre de trucs. Mais c'est ça a 25 ans, ça. Hein. C'était vraiment au début des années 2000. Hein, quand...
Oui, les SEO des premières années.
Il était encore dans son berceau.
C'est clair.
Tiens, Horacio, ce sera intéressant de creuser parce que je ne sais pas, je viens de voir que sur les changelog GitHub, en mai 2025, ils ont annoncé qu'ils affichent maintenant un avertissement quand il y a des caractères Unicode. Est-ce que c'est du coup l'article dont tu parles de d'Aikido, c'est une réponse à cet avertissement et de montrer qu'il y a où c'était avant. Je sais pas en fait la timeline de quand est-ce que date cet article-là.
L'article, il a popé un peu partout il y a une semaine, mais je n'ai pas vu la date d'origine de l'article. Je sais qu'il y a l'article d'Aikido, il a popé récemment, et il a été mis à jour le 31, l'article c'est le 31 octobre. Donc je pense que si c'est le cas, pour le moment, il ne doit pas être très fixé, vu que l'article effectivement date de 31 octobre. Mais
après, des fois, ça peut être aussi l'inverse. Des fois, on peut publier des articles sur des failles de sécurité après que ce soit patché et que GitHub est déjà patché entre-temps, je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question de savoir, faudrait vraiment un peu creuser le sujet, de savoir si c'est toujours le cas ou s'ils ont déjà répondu ou si justement c'est un... ou alors si l'article d'Aikido, c'est une réponse au patch qu'a proposé GitHub, comme quoi leur avertissement n'est pas toujours fonctionnel. Mais en tout cas... En tout cas, ce serait intéressant de voir le lien entre GitHub et cet article-là.
J'ai l'impression qu'ils disent dans l'article que ces techniques déjà avaient déjà des systèmes de détection, mais qu'ils ont réussi à mieux les cacher et qu'en fait, ils arrivent à combattre ces...
Il y a une timeline à l'article. Donc, effectivement, il avait été fait d'une première façon et là, l'attaque est revenue sur... D'abord sur des extensions de OpenBSX et ensuite sur des repos GitHub. Donc ça semble être une nouvelle façon de faire les mêmes attaques sur laquelle pour le moment GitHub n'aurait pas de solution pour le moment. Voilà.
En tout cas, je pense qu'ils prennent ça. J'imagine qu'ils prennent ça sérieusement, puisque ils avaient déjà fait une première réponse en.
Ah, mais ça.
Mais j'espère que.
Il n'y a pas trop de doutes.
Ouais. Ah bah, ça se sent là-dessus. Il y a toujours des sujets de sécurité, puisque c'est GitHub ou GitLab qui hoste beaucoup de code. Ouais. Ils ont régulièrement des nouvelles mises à jour.
Bon, il nous reste quelques minutes. On va essayer quelques trucs courts, par exemple, des outils que vous avez découverts ou que vous utilisez, que vous voudriez partager. Est-ce que quelqu'un a un outil de quel il voudrait parler? Vous sentez inspiré? Sinon, je vais parler de... Ce n'est pas tout à fait un outil. C'est un petit dépôt d'un collègue de Uber qui parlait de comment il gère la configuration de ces différents outils de poste de dev. Et il a fait un petit repo GitHub dans lequel il met tous ces .files, tous les fichiers de configuration de tous les outils qu'il utilise. Comme ça, ils sont versionnés. Quand il a un nouvel ordinateur, tout ça, il peut les récupérer et tous ces outils sont configurés directement. Et j'ai trouvé que c'est une façon plutôt propre de faire. J'avais déjà fait un gros tar et l'ai mis sur un Dropbox et sur des trucs externes. Mais je trouve que le fait d'avoir pour tous ces outils dans sa même repository GitHub, c'est plutôt sympa. Donc, comme outil, c'est pas tout à fait un outil, c'est plutôt une approche. Mais je vous le laisse avec les liens. La façon de gérer ces fichiers personnels de configuration, Via un dépôt GitHub.
J'avoue, j'avais essayé, fut un temps, quand j'étais encore Emaxien, de faire un repo avec tous mes fichiers .file et mes configurations Emacs, ce genre de choses. En lien avec ça, j'essaye d'avoir une configuration qui marche avec Nix et Home Manager. C'est quelque chose qui traîne dans Clever, hein. C'est une disque parmi les différents cultes internes à Clever. Mais je m'y essaye, je dis pas que j'ai réussi, ça a l'air fonctionnel, des fois c'est un peu pété et c'est un peu en kikinant. Mais
un jour on fera un épisode spécial Nix et peut-être vous arriverez à me convaincre de retester. Mais
je pense que tu peux faire plusieurs vu le nombre de personnes qui veulent parler de Nix.
Ça mériterait un épisode à lui toute seule. Bon ben, dans ce cas, je pense qu'on peut s'arrêter là, mais avant d'arrêter cet épisode, on a une tradition. Ah mince, je sais, on ne t'avait pas prévenu, mais c'est à toi de nous donner la musique de fan, une recommandation musicale pour envoyer dans les oreilles de nos auditeurs pour clôturer l'épisode. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu as envie de mettre dans la tête des gens qui nous écoutent?
Alors, tu sais, moi, je suis plus tout jeune, donc j'écoute de la musique de ma jeunesse, donc la musique qui est un peu ancienne. je pense que les gens connaissent Antonio Goncalves, et avec Antonio, on s'envoie des emails secrets avec des enregistrements rares, des concerts de Pink Floyd ou de choses comme ça, qui sont disponibles sur YouTube, quelquefois pendant assez peu de temps. Et donc on se jette là-dessus. Et c'est vrai que, tu vois, il y a quelques mois, les gens ont fêté, entre guillemets, le 50e anniversaire. C'était il y a plus de quelques mois. De Dark Side of the Moon, qui est leur grand album du milieu des années 70. Et je pense que c'est un album qui a toujours, c'est une musique qui a toujours un peu de, bah, qui a toujours des fans, ça c'est sûr, parce que les fans sont pas tous morts encore, donc ils sont toujours là. Mais qui reste. moi j'ai fait écouter à mes enfants et ça les a intrigués, tu vois, ça les a intéressés. Bon, c'est pas le genre de musique qu'ils écoutent en permanence, bien sûr, mais c'est une musique qui reste un peu qui a un côté un peu envoûtant et qui a toujours des fans, y compris des fans qui n'étaient pas forcément vivants quand Dark Side of the Moon est sorti. Mais méfie-toi si tu le mets en fin de ton podcast, parce que je pense pas que ce soit une musique tout à fait libre de droit, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a les intérêts financiers derrière font qu'il y a des gros avocats.
On fait une recommandation musicale et on met des liens vers YouTube ou vers Spotify pour que la personne puisse aller l'écouter. D'accord. À la suite. Comme ça, on respecte les droits, mais on donne la recommandation. Donc, à la fin de ce
podcast. Écoute, Echoes de Pink Floyd, moi je trouve ça très très bien. C'est un truc que j'écoute régulièrement avec beaucoup de plaisir. Voilà.
Parfait. Bon,
et je sais qu'Antonio partage ce point de vue, donc j'en profite pour le citer également.
Nickel. Bah, merci. Merci à toi. Merci à Aurélien et Tanguy pour cet épisode.
Merci.
Et je vous dis à très bientôt.
Au revoir. Merci.
Au revoir.
Au revoir.